Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Un grand vin d'Alsace, c'est un vin où on va pouvoir lire clairement le terroir. Parce qu'effectivement, en Alsace, on a un kaléidoscope de terroir.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Voilà. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon ?
Voilà, messieurs.
Oui. Mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du Raisin et des Papilles. Aujourd'hui, nous sommes à Trenheim. Alors, Trenheim, nous avons fait l'épisode 10 avec Jean Dreyfus, donc du domaine Fischbach. On a fait Pinot et Sono également au mois d'août. Après le confinement, c'était plutôt une bonne chose. Et Trenheim, il y a quelques autres pépites.
Salut, moi c'est Nathan.
Comment déjà se sont passés tes vendanges ?
Eh bien, écoute, on les a finis hier. Donc, forcément, on est très contents parce que tout est rentré. Donc maintenant, il peut pleuvoir, il peut grêler. Qu'importe. Voilà. Donc ces vendanges-là, elles sont très bien passées. On a eu de la pluie le premier matin, mais après on a eu que du beau, même des fois un peu trop chaud. Donc comment dire, on s'est adapté quoi. Donc on a vendangé que le matin par exemple, mais voilà. Donc c'est une belle récolte niveau qualité. Quantité, comme un peu tout le monde, on a un peu souffert de la sécheresse. Donc même s'il y avait un peu pas mal de grappes, notamment dans les Gewürztraminer, il n'y a pas beaucoup de jus. Là, on oscille en moyenne dans les 50 hectolitres hectares. On n'a pas encore fait le calcul, mais c'est à peu près ça. Quoi.
Alors par contre, on a une autre invitée aujourd'hui qui est là de passage. Et j'aime bien les gens qui sont de passage. C'est une Bordelaise qui est très présente sur les réseaux sociaux. Bah oui, je ne peux pas te dire que tu ne passeras pas. Qui es-tu ?
Je suis Soline de la Route des Vins Bio. La Route des Vins Bio, c'est à la base un blog qui explique le vin bio aux consommateurs, où je suis partie interviewer des vignerons bio. Et de fil en aiguille, en écoutant les vignerons et leurs problématiques, j'ai décidé de les aider sur la partie commerciale et œnotourisme. Donc aujourd'hui, j'accompagne des vignerons et vigneronnes bio. Donc je suis coach de vignerons.
D'accord. Et donc tu fais ça sur toute la France ?
Principalement à Bordeaux, mais j'ai des vignerons et vigneronnes en Auvergne, dans la vallée du Rhône et j'espère en Alsace.
Ah bah je te le souhaite. Alors justement, comme on a une étrangère de l'Alsace, c'est en Alsace, hein, c'est Alsace et l'intérieur. Quelle est ta vision, quelle est ta vision sur le vin d'Alsace ?
Moi je connaissais les cépages, Riesling, Pinot Gris, Gewürz, mais je connaissais pas, là en 3 jours de visite, ce que j'ai compris c'était le mot mosaïque de terroir. Et je l'avais pas compris ça avant. Et qu'un cépage peut avoir différentes expressions, ça je l'avais déjà compris dans d'autres terroirs, mais l'image de l'Alsace n'avait pas cette identité-là. Et des discussions que j'ai eues, je me suis dit, peut-être qu'il y a cette identité difficulté à faire ressortir pour que le consommateur comprenne. Je pense qu'il y a les gens qui sont d'ici peut-être comprennent le vignoble alsacien, et encore il y en a qui me disent non, les Alsaciens ne boivent pas du vin d'Alsace, mais je pense qu'il y a peut-être une image plus avec une identité de diversité sur l'Alsace à faire ressortir, et qui n'est pas évidente pour les étrangers qui viennent de Bordeaux.
Est-ce que tu peux me parler de l'histoire de ton domaine? Je crois qu'on est au 16e siècle, 1580 à peu près.
Ouais, c'est ça. Tout à fait, 1580. Voilà. C'est un acte de mariage, en fait. Donc, c'est le premier document. Alors, on était sur un vigneron avant. Ça ne change pas grand-chose. Hein. Ça fait déjà très longtemps. Et en fait, ça a continué jusqu'à maintenant. Le domaine actuel, là où on est, il date de 1880-85. Et en gros, pour faire un petit résumé, donc, mon grand-père avait à peu près 2 hectares de vignes. Et actuellement, on en a 11,5. On est en bio depuis 98. Et actuellement, je travaille avec mes deux parents et ma sœur.
98, on est un peu au début de l'ère bio, même pas. Je pense qu'il y en a qui ont osé, qui ont fait, mais partie de un peu des pionniers qui ont fait du bio.
Oui, bah après c'est pas la première vague non plus, hein. Il y en avait avant, mais après c'était une succession. Mon père était, ou il avait un peu lancé avec d'autres, Tiflo, donc c'était un peu le pré-bio pour les viticulteurs alsaciens, mais sinon il a toujours fait des essais. Par exemple, on goûtera après un Riesling de la parcelle Steinacker de Trenheim, et celle-ci par exemple, elle a été plantée en 87, elle a jamais été désherbée chimiquement.
Et qui est Nathan Muller? C'est quoi ton parcours, ton histoire à toi?
Mon histoire, je suis né à Trenheim. Maintenant, j'ai fêté il n'y a pas si longtemps que ça, mes 30 ans. J'ai fait un lycée général, un bac S à Molsheim. Et après, je ne savais pas si je voulais encore trop reprendre le domaine. À un moment donné, on se cherche toujours un peu, c'est jamais trop évident. Et j'avais le choix entre aller, par exemple, dans un BTS Vitieno, quand même, ou aller autre part. Et j'ai choisi d'aller autre part. Donc j'ai fait un DUT génie biologique option agronomie avec parcours vignéron, je crois que c'est l'intitulé exact, à Colmar. Non, et ça m'a beaucoup plu parce que j'avais hésité justement à aller à Beaune, et quand on avait visité, on n'a pas été convaincus, et c'est vrai qu'à Colmar c'était neuf, il y avait pas mal de cours, c'était très diversifié, donc c'est sur l'agriculture de manière générale. Et c'est vrai que je suis pas mécontent d'avoir fait ça, parce que je pense que ça m'a donné une ouverture d'esprit que certains n'auront pas forcément, dans le sens où j'ai fait un stage en laitier, j'ai fait un stage en brasserie, donc brasserie qui fait de la bière. Et après, je me suis un peu spécialisé dans le vin, j'ai dû faire une licence, je sais plus comment elle s'appelait cette licence. À un moment donné, j'étais bien dans mon stage de brasserie et j'avais pas trop de bonnes notes, enfin j'étais toujours juste assez bon pour passer au-dessus, quoi, sans redoubler ou pas être au rattrapage. Et je voulais faire la licence vignes et vins à Dijon, mais j'avais pas été pris. Et du coup, j'ai fait une licence en dernier recours, une semaine avant, j'ai été accepté à Colmar. Mais c'était en fait pour avoir le degré bac plus 3 et pour intégrer donc le DNO et donc le diplôme national d'œnologie, et donc je l'ai fait à Reims. Pareil, j'ai eu de la chance de rentrer là-dedans parce que c'est une petite promo. En fait, ils avaient décidé de pas forcément tenir compte des notes, mais plutôt de la motivation et de la volonté de chaque étudiant. Voilà, donc j'ai intégré cette petite promotion.
Et je crois que dans ton parcours, il y a aussi la Nouvelle-Zélande, me semble-t-il.
Oui, alors ça vient après. Mais durant mes études, hein, donc, du coup, j'ai un peu travaillé en Allemagne, à Trèves. Donc, c'est dans le domaine de l'évêché de Trèves. C'est une très belle cave dans le centre-ville. La cave est immense, elle recouvre tout le sous-sol. Je n'ai pas pu tout visiter parce que maintenant, c'est un peu fermé, tout ça. Et les vignes, elles sont très, très pentues. Il y avait une déclinaison de Riesling, ils avaient plein de Riesling, donc ça c'était génial. Et après, je me suis concentré vers les rouges, dans le Beaujolais, enfin dans les coteaux du Lyonnais, pardon, c'est le sud du Beaujolais. Et ensuite, dès que j'avais fini mes études, j'ai fait bien sûr en Champagne aussi un stage. Et après, effectivement, je suis parti d'abord aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai fait un peu un parcours classique d'après-études, donc on essaye de faire 2 vendanges en une seule année, quoi, en allant dans l'hémisphère nord puis dans l'hémisphère sud.
Oui, je trouve toujours ça très passionnant, le fait que, malgré le fait que ce soit un domaine qui se passe de génération en génération, que tu aies décidé quand même d'aller faire des études, alors que tu savais que ta place était là. Enfin, souvent en France, on va faire des études pour trouver du boulot. Toi, tu savais que le boulot était là, mais tu as quand même fait des études. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça et qu'est-ce que ça t'a apporté?
Je pense que ça a confirmé mon choix
En fait, mon choix premier, c'était pas forcément de partir, mais est-ce que vraiment je voulais devenir vigneron, c'était ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas forcément devenir vigneron à tout prix, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est travailler chez moi, être mon propre patron. Et c'est vrai que quand on travaille dans une petite structure familiale, bon, forcément il y a des hauts, des bas, des fois on s'engueule, mais au moins déjà quand on s'engueule, on se le dit tout de suite, et après ça va mieux. Et puis surtout, ben on fait ses propres choix, quoi. Mais vraiment de A à Z, quoi. Si je décide un jour de, je sais pas moi, de vendre que du jus de raisin, bah je le ferai. Bon, j'en assumerai les conséquences parce que c'est quand même moins bon que le vin. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a plu. Et à la limite, si j'avais dû reprendre un domaine familial, je sais pas moi, une cidrerie en Normandie, je pense que ça aurait été tout aussi intéressant. Parce que moi, ce qui me plaît aussi des fois, c'est, je sais pas, c'est bête à dire, mais par exemple, un peu d'optimisation, c'est-à-dire tu reviens sur le domaine, tu dis, ah ben ça serait pas bien de changer un peu ci, ça, voilà. Et après, il faut que la famille reste à l'écoute. Il faut rester toujours à l'écoute aussi de ses autres compagnons.
Et quel stage t'as le plus marqué parmi tout ce que tu as fait, même brasseur et tout ça?
Ouais, peut-être le premier, c'était en Angleterre, parce que je suis tombé amoureux de ce pays-là. D'abord, je voulais absolument aller en Écosse, ce qui est d'ailleurs très bête. Enfin, je suis toujours pas allé d'ailleurs, parce que je voulais faire du whisky, mais on m'a dit que c'était pas la bonne période, j'allais que laver des fûts, quoi. Donc on m'a dit, bah pourquoi pas la bière, je fais ok, mais je voulais rester en Écosse absolument. Et j'ai pas trouvé, personne voulait de moi, j'ai fait je crois 65 brasseries, personne voulait de moi à part une dans le nord de l'Angleterre. Je suis descendu progressivement, hein. je voulais quand même rester en haut. Et parce qu'ils avaient eu un salarié qui avait eu un accident de voiture, qui était, bah en fait ça tombait pile poil bien, il était convalescent pendant deux mois et demi, voilà. Donc j'ai un peu remplacé comme ça. Et
tu as coupé les freins, donc
Non, je suis pas allé jusqu'au bout comme ça, mais voilà. Et ce qui était très bien, bah, j'ai découvert un nouvel univers. C'est vrai que bah, le vin, on avait un peu l'habitude, mais c'est vrai que la bière, je connaissais. Et j'habitais aussi au-dessus d'un pub, c'était un autre pays. Voilà, c'était tout un ensemble de choses qui m'a fait adorer un peu voyager aussi. Et donc ça m'a bien marqué. Mais sinon, chaque stage, j'ai adoré aussi dans les coteaux du Lyonnais. Je trouve que c'était une très belle culture du vin, une autre que celle qu'on a en Alsace. Et même, j'ai envie de dire, un côté un peu plus français, quoi, du vin. Et ça m'a pas mal plu. Et après, bah, tous mes autres voyages, quoi. Mais ouais, en fait, chaque voyage est différent et c'est pas forcément le côté travail. Des fois, c'est aussi le côté humain qui va primer. Ça dépend.
C'est quoi un vin français et qu'est-ce que c'est qu'un vin alsacien alors?
Disons que nous, on a une identité un peu particulière en Alsace. On est à mi-chemin entre le côté germanique et le côté latin. Ça faisait un peu vieille France dans le sens où je crois qu'on buvait le vin justement dans des petits verres de cantine, tu vois. Oui. C'est qu'on va dire, mais où c'était servi dans un pot comme ça. Oui. Et ça, je trouvais ça drôle parce que nous, à chaque fois, on est obligé de. C'est un peu la course au verre le plus grand.
Surtout maintenant.
Voilà. Moi, j'ai adoré ce rapport simple avec le vin. Et tu voyais que c'était des gens qui appréciaient le vin, ils le dénigraient pas du tout, mais ils vivaient dans cette simplicité-là, quoi.
Que nous, on est peut-être un peu trop précieux avec le vin, tu trouves?
On n'est jamais assez précieux, mais disons que des fois, bah, c'est vrai qu'il y a des vins, il n'y a pas forcément besoin de les accompagner avec du foie gras, une veille de Noël avec des énormes verres, des beaux plateaux. C'est vrai que je pense que moi, ce que j'aime bien dans le rapport avec le vin, c'est son accessibilité. Pour certains, hein, effectivement, si on sort des plus vieux millésimes sur des grands terroirs, ça c'est autre chose. Mais il y a certains vins qu'on produit. Et sans parler de petits vins, disons que c'est des vins accessibles.
Qu'est-ce que tu as changé par rapport à ton père quand tu es revenu justement de toutes tes expériences, sachant que vous continuez de travailler avec des particuliers principalement, donc tu pouvais pas faire un changement à 180 degrés un petit peu? Qu'est-ce que tu as amené?
Alors bah, pour l'instant ça reste que des détails, parce qu'effectivement on travaille beaucoup avec des particuliers, donc c'est dur. On n'a pas fait le choix par exemple de faire que des vins nature, que des vins secs, parce qu'on sait très bien que la clientèle n'allait pas suivre. Mais disons que moi, quand je suis arrivé, ben, par exemple, on faisait beaucoup de vendanges à la machine, donc c'était notre propre machine. Moi, la machine, j'ai aucun problème avec, c'est pas du tout le diable. Je veux dire, on vendange le blé, on le récolte à la machine, ça pose pas de soucis. Maintenant, il y a des machines qui sont très perfectionnées avec des petits érafoirs, des trieurs, tout ça. Je veux dire, je pense pas que ça donne des vins moins de garde. J'en suis pas persuadé, du moins. Et c'est pas pour ça qu'on a changé. mais c'est vraiment pour le côté humain de la chose. Et en changeant quelques trucs, comme je parlais un peu d'optimisation, notamment on a abandonné cette fameuse bottiche alsacienne.
C'est quoi le repas du vendangeur type, un midi, qu'est-ce que...
En fait, on prend le plat du jour au restaurant du village, au Zum Leuelkücker, qui est très bon. Ça, on n'a rien à dire, on est très content de l'avoir à Trenheim.
Vous vendez en local à 150 km à la ronde.
500.
À 500.
Oui,
500.
Local dans le sens...
Ok, c'est parce que j'ai aussi entendu dire qu'en Alsace, les Alsaciens ne boivent pas du vin d'Alsace.
Ah, parce qu'ils prennent tous chez nous, alors peut-être. Ouais. Là, je rigole.
Vous, vous avez la chance d'avoir des Alsaciens qui boivent votre vin.
Bah oui. Et... Beaucoup de Lorrains aussi. Okay. Ouais.
Pareil.
Va-t-on lancer ce débat, vraiment?
Et donc, la gamme de prix
En gros, on va dire entre 6,50€, puis je crois que c'est 12€ le grand cru. Après, il y a les vendanges tardives, ça c'est encore à part, quoi, mais voilà.
Reste très accessible pour un consommateur de vin français.
On veut pas forcément des gens avec des grosses Mercedes ou voilà. Moi, je suis d'autant plus heureux quand quelqu'un qui a peu les moyens, bah, il m'achète même le début de gamme. Bah, moi, ça me fait plaisir aussi parce que je me dis que participe aussi quelque... parce que cette personne-là, même si elle a pas forcément énormément d'argent, bon, elle a déjà assez suffisamment d'argent parce que il y en a qui peuvent même pas s'en payer. Donc, ça fait partie de notre culture. Donc, à un moment donné, si on se ferme toujours à vouloir vendre à l'étranger à des prix les plus élevé possible, je sais pas, ça, à un moment donné on tue un peu notre culture et comme je disais, moi ce qui m'avait le plus plu là quand j'étais dans les coteaux du Lyonnais, c'était ça, c'était cette simplicité. Et là-bas les prix, je sais pas, ça doit être, je vais pas dire de bêtises, mais la moyenne des bouteilles c'est peut-être 5€ en vente directe, quoi. Voilà, je parle même pas des supermarchés, ça c'est encore un autre cas, quoi. Mais
tu disais que tu travailles beaucoup avec des particuliers, mais moi je t'ai découvert dans un endroit un peu qu'on connaît bien, je crois qu'on aime bien tous les deux, le Café des Sports, puisque tu as fait un pétillant naturel que tu as fait en fût de 20 litres, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Tout à fait.
Alors moi j'aimerais, alors c'est une question que je voulais poser à Eric Kam, puisque lui il a fait un rosé en 20 litres également. Comment est-ce qu'on met un pétillant naturel en fût?
Alors déjà, qu'est-ce que le pétillant naturel? Je sais pas si tu l'avais déjà expliqué sur ton...
Non, mais je t'en prie. On a Jamie.
Non, déjà, donc, parce que ça va expliquer le process en même temps. Donc, en fait, le pétillant naturel, c'est un vin pétillant qui n'a que ses sucres naturels, en fait, pour produire le gaz, les bulles. Et donc, en fait, en fin de fermentation d'un vin classique, on va le mettre en vase clos. Donc, la plupart des gens utilisent, par exemple, des bouteilles de crémant, donc les fermes capsulées. Et donc, le reste du sucre et le reste des levures qui sont naturellement présentes dans le vin va faire, avec cette transformation, donc le sucre en alcool et en CO2, donc va faire de la mousse, des bulles. Et moi, du coup, pour faire du pétillant naturel de 20 litres, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir une bouteille qui fait 75 centilitres, j'ai un gros fût qui fait 300 litres, inox, 5 mm d'épaisseur.
Et je crois qu'il a un nom alsacien, ton pet-net.
C'est le spritzi, donc ça veut dire pétillant. Quoi.
Voilà, les Italiens le spritz, nous on a le spritzi, et puis t'es pas mal. J'ai eu un commentaire d'une auditrice qui trouvait ça bien de faire un podcast accessible. Je trouvais que le fait de faire un podcast est une bonne chose, mais qu'elle trouvait le vin d'Alsace ringard. Alors je pose la question à tous les vignerons, c'est la question qui fâche, donc je te la pose. Nathan Muller, les Alsaciens veulent savoir, est-ce que les yeux dans les yeux, est-ce que le vin d'Alsace est ringard?
Non, bien sûr, non, le vin n'est pas ringard, enfin déjà le vin n'est pas ringard, parce que ça pourrait être aussi une bonne question, première, mais le vin d'Alsace d'autant moins, parce qu'il y a quand même plein de jeunes vignerons qui reprennent des domaines, il y a une grande part de vin bio, donc on s'inscrit quand même dans une tendance, il y a une demande par les consommateurs d'avoir du vin bio, du vin nature aussi. Non, il n'est pas du tout ringard. Déjà, que veut dire être ringard? Ça dépend de son point de vue, de son expérience personnelle. C'est vrai que peut-être il y a des gens, ils n'aiment pas les vins nature et ils n'ont pas forcément tort, ils recherchent des fois certaines clés qu'ils ne retrouvent pas dans certains vins. Et en fait, le plus important, c'est d'avoir une grande palette, une grande diversité. C'est qu'en fait, il faut qu'il y ait du vin pour tout le monde. Comme je disais, nous, on essaye de rester dans des prix accessibles. Mais moi, je comprends très bien, si on veut se placer sur des grands marchés, être dans des lieux prestigieux, ça, c'est un choix et qui est tout à fait respectable. Donc, ringard, déjà, ça ne veut rien dire en tant que tel, vu que ce n'est pas objectif. Et non, surtout pas parce qu'on est très diversifié en Alsace. Voilà.
J'aime bien la réponse. Donc, ça fait 3 jours que tu es là. Donc, tu as visité pas mal. Tu étais notamment chez Rorère et compagnie. Est-ce que tu penses, tu trouves, que le vin d'Alsace est ringard?
Déjà, il faudrait définir qu'est-ce que ça veut dire ringard. Et je pense que ringard, non mais ringard, je crois que c'est plus, pour moi, ce serait plus en termes d'étiquette ou peut-être le mot est peut-être relié à la tradition, au fait que les lignes ne bougent pas, qu'on reste dans l'ancien. Je pense que le ringard, c'est peut-être ce qui est ancien. Mais comme il a dit, moi, je trouve que ça bouge. Comme il a dit, il y a du bio, il y a des jeunes, il y a du vin nature. Mais peut-être qu'ils sont encore trop, enfin, pas assez visibles. Et peut-être que cette personne-là ne les connaît pas, ces gens-là. Et qu'elle généralise.
Alors, est-ce que tu n'as pas l'impression, parfois, que Bordeaux a du mal à se renouveler et a du mal à suivre le mouvement ?
C'est pareil. À Bordeaux, il y a des mouvements de jeunes vignerons, des vigneronnes. Il y a du bio, il y a de la biodynamie qui se développe. Bon, ce n'est pas encore la généralité. Mais il y a un mouvement qui s'appelle les Bordeaux Pirates. Et qui veulent changer les lignes, qui veulent changer l'agriculture en premier et faire des vins de lieu et de faire quelque chose de différent, de sortir des grands crus classés. Et donc, il y a de l'avenir.
Merci. Alors, nous avons eu la chance de rencontrer Jean-Michel Daïs il y a quelques semaines maintenant. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont forcément restées dans nos souvenirs, mais il y a une question qu'il a souvent posée que je trouve assez intéressante et j'aimerais bien avoir l'avis des vignerons. C'est simplement la définition pour toi, c'est quoi un grand vin ?
Dure question. C'est un peu une question qu'auraient pu se poser les inconnus lors d'un sketch œnologique. Qu'est-ce qu'un grand vin ? Déjà, je pense que c'est personnel. Moi, clairement, il y a une notion de qualité, mais une notion de quantité. Dans le sens, je m'explique. Pour moi, un grand vin, c'est tout d'abord un vin qui va me plaire, qui va avoir justement un attrait particulier, c'est-à-dire si on parle par exemple d'un vin d'Alsace monocépage, voilà, c'est quelque chose qui va aller au-delà de ce cépage que l'on connaît déjà. Donc ça va pas être un vin forcément classique. Il va avoir une petite subtilité en plus, un supplément d'âme. Et puis finalement, à la fin de la soirée, c'est typiquement le vin où waouh. La bouteille est déjà vide, je veux dire, on en revient encore, quoi. Ça n'a pas été assez. Et pour moi, déjà, ça, c'est le début d'un grand vin. Enfin, c'est la première catégorie, quoi. Après, c'est peut-être... Mais pour moi, déjà, c'est... Je ne l'ai pas préparé, en plus. Et pourtant, je savais que vous alliez la poser. Pour moi, déjà, c'est... Il faut qu'il y ait un plaisir. Enfin, déjà, il faut qu'il y ait une connaissance, une éducation. Voilà. Parce que le simple plaisir, ça veut pas forcément dire que c'est grand, parce qu'il suffit qu'on ait bu qu'un seul vin, il nous plaît, ça veut pas dire que c'est un grand vin. À un moment donné, on cherche dans une catégorie, dans une classification, on essaye de creuser, et voir si de positionner ce vin par rapport à ce qu'on a déjà goûté, quoi. Et ça va être ça, cette recherche-là qui va... on va dire grand vin, c'est un peu un classement, quoi, donc... un peu le top 50, on va essayer de dire ah bah lui il est dans le top 10, lui il est dans le top 3, ou lui c'est le meilleur que j'ai jamais goûté, quoi. Mais avant tout, c'est aussi un vin qu'on puisse comprendre aussi, parce que des fois il y a des vins, par exemple on sent qu'ils sont bons, et alors par exemple quand ils sont trop boisés, et ben à un moment donné on peut pas le classifier dans les grands vins, enfin moi j'arrive pas, parce que j'arrive pas à l'apprécier en tant que tel. Je me dis ouais, mais si c'était que du bois comme ça. Mais on sent qu'il y a quand même autre chose. Mais, donc je me dis, bah, tant pis, donc il faudrait que j'attende. Et à la limite, quand je le regoûterai, là, à la limite, je pourrais le juger.
J'ai une question. C'est quoi pour vous un grand vin d'Alsace ? C'est quoi votre grand vin d'Alsace ?
Un grand vin d'Alsace, c'est un vin où on va pouvoir lire clairement le terroir. Parce qu'effectivement, en Alsace, on a un kaléidoscope de terroir. Et c'est justement dans les subtilités, notamment quand on parle de Riesling. C'est vrai que ce cépage-là, c'est quand même un marqueur de terroir. Donc c'est là où déjà on va pouvoir lire justement sur quel sol il est. Ou essayer de deviner, hein. Bien sûr, c'est jamais... Des fois, c'est pas si évident. C'est un vin avec une grande longueur en bouche. C'est un vin qui va un peu perdre de son côté organique pour vraiment aller tout de suite dans le minéral, par exemple, pour un Riesling. Mais après, si on parle de Pinot Noir, pour moi, il y aura aussi une notion d'équilibre. C'est-à-dire, à un moment donné, si un Pinot Noir, il est vif, mais qui manque un peu d'un côté corsé, un peu de tanin, un peu de rondeur, moi, s'il pêche un peu dans un équilibre, il va pas forcément... Enfin, je vais pas le considérer comme un grand vin.
Place à la dégustation. En préambule, on a goûté un muscat 2018, un muscat qui est non filtré. T'en as pensé quoi de ce muscat ?
comme j'aime bien dire, quand un vin me plaît, il a un goût de reviens-y. Et quand tu finis le verre, on parlait des bouteilles, des grands vins, quand il n'y a plus de vin dans la bouteille, c'est que c'est bon. Ben là, il n'y a plus de vin dans le verre, c'est que c'est bon.
C'est bien, pour une bordelaise, pour une femme, va boire du bon vin. Est-ce que tu peux nous en parler de ce muscat?
Ouais, donc c'est un muscat de 2018. On a fait 4 jours de macération dessus et grappé. Au préalable, il a été effeuillé. C'est vrai que moi, je suis un grand adepte de l'effeuillage. Je trouve que ça donne des... Justement, quand on parle de macération, où justement on recherche le côté vraiment nickel de la baie de raisin, avec l'effeuillage, ça permet justement d'avoir un raisin qui est bien mûr. On le voit souvent, c'est des raisins qui sont un peu plus colorés. Ils sont directement au soleil, ils ont des peaux un peu plus épaisses, donc on va pouvoir rechercher dans la macération plus de composés justement de cette fameuse pellicule. Quoi. Donc, ça va être un muscat avec 4 jours de macération, il a à peine commencé de fermenter, qui va avoir une petite mâche en fin de bouche, et justement comme on avait parlé, contrairement à un muscat qui n'a pas été macéré, où des fois c'est très bon au nez, en début de bouche aussi, et en fin de bouche il manque un peu quelque chose, un peu de sensation, bah, ça va combler un peu cette lacune-là. Quoi.
Alors, l'effeuillage, je crois avoir lu que tu le fais à partir des moutons du village, c'est bien ça ?
Ouais, tout à fait. On a la chance d'avoir un berger encore dans le village. Il a 150 moutons à Trenheim. Et c'est vrai que on pratique l'effeuillage, enfin une partie pas tout, avec ces moutons-là. On essaie de faire la moitié de la surface. Et ça donne de très bons résultats. On a eu quelques problèmes quand même l'année dernière où il a fait très chaud. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Ça, faut quand même le dire. Il n'y a pas que des avantages. À part ça, on a toujours de bons résultats. Et notamment, on a eu que des bons résultats, notamment sur Gewürz. Gewürz, c'était un cépage que j'appréciais pas forcément au début. Parce qu'on faisait toujours des Gewürztraminer sucrés. Mais je me rends compte que le Gewürztraminer a quelque chose à donner, même justement quand on parle de pétillant naturel ou de vin sec. Si le Gewürztraminer, on ne le récolte pas pour son côté aromatique, mais pour son côté vin structurant, ça donne des très bons vins.
Place au premier vin. Alors, qu'est-ce que c'est la cuvée Trenheim? Parce que je sais que Jean Dreyfus en a une aussi. Je crois que tous les vignerons à Trenheim en ont une.
Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est un projet communal, d'appellation communale, avec un cahier des charges commun à tous les vignerons de Trenheim. L'idée, c'était de se rassembler et de promouvoir en fait le terroir de Trenheim. C'est une manière de faire, parce que là, on est sur un vin d'assemblage, et c'est une manière de faire qu'on avait un peu oublié, avec justement quand on a été à nouveau germanisé après la guerre de Prusse, 1871, où on est passé sur du monocépage, et c'est ça qui est resté. Parce que quand on est redevenu à nouveau français en 1918, on avait le créneau des monocépages, donc voilà, autant rester, c'était plus simple. Et à un moment donné, les appellations ont un peu figé tout ça, et donc on a l'impression qu'on a toujours fait des vins monocépages. Alors que ce n'était pas aussi vrai dans le passé. Et donc là, on voulait refaire un peu ça. On a commencé avec le Trenheim blanc en 2002. 12, c'est un assemblage de pinot. Donc on a pris le pinot gris, l'auxerrois, pas tout à fait un pinot, mais on considère comme ça, et le pinot noir. Voilà. Donc chacun fait son assemblage comme il veut. Il faut qu'il soit sec, il y a un élevage de 9 mois minimum sur lit avant mise en bouteille. Et après, on a lancé le Trenheim rouge. Alors on avait essayé avec du pinot gris, pinot noir, pour justement rester dans l'assemblage. On n'avait pas été convaincu dans le sens où c'est vrai que le pinot gris n'a pas forcément été sélectionné comme le pinot noir pour ses macérations. Et c'est vrai que pour donner des vins un peu légers, gouléants, c'est sympa le pinot gris. Mais c'est vrai que le pinot noir seul, c'est lui qui va vraiment donner un vin rouge digne de ce nom. Enfin, c'est notre avis.
Qu'en penses-tu, monsieur ?
La première gorgée, tout de suite après le muscat, je dois avouer que c'était le jour et la nuit. Je le trouvais un petit peu alcooleux. Un petit peu le bois en fin de bouche. Je trouve que dès la deuxième gorgée, ça s'équilibre un petit peu plus, on va dire. Après, on est quand même sur pas mal d'extractions, quelque chose de très rond aussi en bouche. Et c'est assez intéressant, effectivement. On est très éloigné du pinot noir qu'on a d'habitude. On n'est pas trop sur le bois. Il est présent, on le sent, mais...
Le côté fumé, ça va être plutôt lié au terroir. Parce que c'est des barriques qui ont une dizaine d'années, donc elles n'ont pas donné de bois. C'est vrai qu'on a l'impression en fin de bouche.
Tout à fait, oui.
Mais c'est plutôt côté tannique, vraiment, parce qu'on est allé sur quand même une extraction de 2 semaines quand on a fait la macération. Donc c'est vrai que ce côté très tannique, ça rappelle un peu certains vins boisés, mais okay. C'est vraiment lié au raisin.
Ok, mais pas forcément à l'élevage. Très bien.
Moi, c'est le nez qui me plaît beaucoup. Il y a des arômes de cerise. On est vraiment sur le fruit, en fait. Et en même temps, en bouche, on a une vraie structure, une belle texture en bouche. Ça m'étonne d'un pinot noir, parce que d'habitude, les pinots noirs, pour moi, sont plus légers. Et là, il y a la matière. Et ça me plaît beaucoup.
Moi, je suis assez d'accord sur la gourmandise. Pour quelqu'un qui n'aimait plus les pinots noirs et qui... Ouais, non, mais vraiment. Vraiment, j'en pouvais plus des pinots noirs. Pinot noir crément, c'était... Bon, je me suis un peu réconcilié avec ces deux. Et je suis assez content, finalement. C'est une très, très bonne chose. En tout cas, moi, j'aime beaucoup.
C'est un projet d'appellation. Hein. C'est pas encore, gravé dans le marbre.
D'accord.
Voilà. Bon, on espère à un moment donné que ça passe, mais on ne sait pas trop où ça en est.
Next. Alors, on est sur un crément actuellement. Alors, le crément, je crois que dans les vendanges, c'est toujours le premier, c'est toujours la première chose que vous vendangez, hein, c'est ça?
Non, généralement, c'est ce qu'on vendange en premier. Nous, par exemple, dans le blanc, on met un peu de Riesling. Donc là, le Riesling met toujours un peu plus de temps que les autres cépages. Donc ça ne va pas forcément être à chaque fois, on finit pas tous les créments et ensuite on commence les autres vins. Généralement, on commence par ça, oui.
Alors, on est sur un crément rosé. Alors, quelle est la différence entre un crément classique et un crément rosé?
Alors, le crément blanc, donc c'est un assemblage de plusieurs cépages en Alsace. Pinot gris, pinot blanc auxerrois, pinot noir, Riesling. Il y a le chardonnay. Est-ce que j'en oublie un, moi? Non, je crois que c'est tout. Voilà, ça c'est pour le blanc. Et pour le rouge, il n'y a que le pinot noir qui est autorisé.
Pour le rosé, c'est juste le pinot noir. Monsieur Adrien.
Je le trouve très agréable, effectivement, pour rincer le verre, comme tu disais. On aimerait bien rincer les verres plus souvent avec ce type de vin. Non, il y a des bulles très très fines. Il y a un côté vineux qui est assez vertical, moi que j'aime beaucoup. Un tout petit peu de sucre en fin de bouche. Je pense qu'il est légèrement dosé, peut-être.
Oui,
ouais, donc ça doit être ça. Mais du coup, c'est un vin qui est vraiment super agréable à boire.
C'est du 2017, donc on est sur du 2 ans sur latte. Ça aussi, c'est important de le préciser. Que la durée sur latte, on a remarqué de manière empirique que à partir de 2 ans minimum, on avait vraiment un goût qui était plus fin. Voilà. Parce que des fois, il y a certains créments, 1 an sur latte, il y a toujours le côté fruité comme ça qui prépondère. Et le côté vraiment de l'élevage, de la méthode, champenoise, la méthode traditionnelle, il vient, on l'a remarqué à partir de 2 ans.
Donc un peu plus de complexité, une bulle assez fine, c'est tout en dentelle, moi j'aime beaucoup.
Pour le dernier vin,
l'avant-dernier.
Donc on est sur un vin qui est de 2016, je crois bien.
Oui, c'est ça. C'est le solstice d'hiver cuvée 2016. C'est un Gewürztraminer, on le marque en petit sur la bouteille, parce qu'il a été récolté le 21 décembre 2016, du coup. Donc le solstice. Et c'était une année où il n'y a pas de pourriture noble. On voulait faire de la vendange tardive, mais qui dit vendange tardive dit pourriture noble, donc on n'en a pas fait. Et on cherchait un peu à faire autre chose et début décembre, il a commencé à geler. Et malheureusement, c'était une période où on avait mise en bouteille, étiquetage, cette même semaine de froid. Et on était un peu dégoûté, donc on ne l'avait pas vendangé. Et en fait, c'est le gel des gels qui a provoqué le blétissement de la baie de raisin. Donc, en fait, le raisin a commencé à se sécher, parce qu'avant, il était encore impeccable. Et on a dû un peu lutter contre les étourneaux, hein, mais vraiment le raisin était vraiment resté sain et le fruit est devenu blet et on l'a récolté à ce moment-là, donc le 21 décembre. Et donc ça donne une cuvée un peu particulière. Il a les degrés tout juste pour une vendange tardive. On n'a pas voulu l'appellation parce que c'est trop différent de ce qu'on fait d'habitude niveau vendange tardive. C'est un peu moins concentré du coup. Mais par contre, ce qui est assez incroyable, je parle de mon vin, donc incroyable, ça fait un peu prétentieux, mais je veux dire juste techniquement, c'est que je trouve qu'il a gardé une belle fraîcheur et de beaux arômes, quoi, malgré le fait que ce soit très très tard. Voilà.
Moi, je trouve qu'il a un nez assez incroyable. Alors, je répète le mot comme ça, on assume, il est incroyable. De toute façon, Nathan est sympa, donc il est incroyable. Il a raison d'être fier de ce qu'il fait, je trouve. Par contre, il y a quand même un signal que je n'ai pas observé aujourd'hui, mais je ne l'ai pas oublié. Et là, pourtant, question moustachu, question poil, je suis servi aujourd'hui.
Nathan a abandonné sa moustache. Les 2 ans, je change de tête parce que je suis suivi par la police.
Ah. Est-ce que tu as la moustache qui frétille ou pas?
Oui, bien sûr.
Alléluia! Il
dis des fois non.
Ah oui, ça... ah bon, alors ça va, ça me rassure.
Une fois, il y a vraiment un vin qui m'a pas plu. Et... ah ouais. Non, là, j'étais un peu moins conquis par le Trenheim rouge. Hein, je pense que tu l'as senti. Là, pour l'instant, j'en suis conné sur ce vin-là et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Il n'y a pas ce côté vulgaire que j'aime pas dans les Gewürztraminer habituels avec la rose, le litchi, mais vraiment façon haute toilette. Là, on a un côté confit, brioché qui est vraiment présent. Et c'est... j'ai pas mis, je l'ai pas mis en bouche encore, que j'ai l'impression que ça va être incroyable, comme tu disais.
Il est sucré, mais tout va se jouer dans l'équilibre parce qu'il a gardé beaucoup de fraîcheur.
Alors moi, je le trouve... alors, il est sucré, mais je le trouve pas trop sucré non plus. Enfin, c'est pas un Rivesaltes, on n'est pas sur... une vendange tardive. Enfin, pour moi, j'ai pas l'impression d'être sur une vendange tardive. Même si, vu l'époque où il a été 21 décembre, c'est très tardif. Mais je le trouve relativement accessible et je ne suis pas du tout un amoureux des vins trop liquoreux. Et ça, j'ai toujours un peu de mal. Je vais boire un verre et après, j'en peux plus, quoi.
Bah écoute, il a été approuvé par Charles Brandt lui-même. Ah donc, ouais. Voilà. Ah ouais, bien. Non, c'est vrai que moi non plus, hein, je ne suis vraiment pas fan des vendanges tardives. On en fait. Mais ce n'est pas ce qui me plaît le plus dans les vins. Et même bon là, c'est vrai que j'en bois pas tous les jours, hein, c'est sûr. Mais je trouve que c'est intéressant en tant que dégustateur de goûter ça. Parce qu'effectivement, Gewürztraminer avec beaucoup de fraîcheur, c'est pas commun. Et bon, ça suffit rien que pour la découverte. Et puis effectivement, même les gens qui apprécient les vins sucrés, des fois ils sont des fois un peu déçus. Ils pensent à un truc un peu plus, encore plus confit, encore plus concentré, mais on leur dit toujours que ce n'est pas ça qui compte forcément. Peut-être pour eux, mais pour nous, dans la définition un peu d'un vin sucré, c'est toujours l'équilibre qui va primer. Parce que ça ne sert à rien d'avoir X temps de grammes s'il n'y a pas l'acidité ou la matière qui va avec. Quoi.
Tu en penses quoi maintenant que tu l'as dégusté?
Effectivement, bon, on sent le sucre hein, qui est bien présent, bien sûr. Mais il n'est pas du tout lourd, effectivement. Il est bien équilibré. Moi, je trouve qu'il y a un côté iodé aussi qui vient faire un petit peu la balance et l'équilibre qu'on peut avoir avec le sucre. Donc, c'est vraiment super intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de boire des vins comme ça. Et là, je pense qu'on peut finir un verre tranquillement, alors qu'avec du sucre, ou en général, la première gorgée, on trouve que c'est génial. On a du mal à y revenir, quoi. Donc, très intéressant.
Si tu devais définir ton domaine en trois mots, ce serait lesquels?
Wow.
J'adore ce genre de questions.
Ouais,
entretien d'embauche, t'es trop
d'accord. Ouais, trois mots familial, accessible, convivial. Allez, voilà. Mais après, c'est des mots un peu bateaux, ça pourrait être.
Ça fait penser à certains restaurants, certaines grosses entreprises.
Voilà.
Moi, je trouve que ça te caractérise plutôt pas mal. C'est vrai que je ne te connaissais pas et l'épisode touche à sa fin. C'est toujours un crève.
Il reste encore un vin.
Je demande souvent aux vignerons de goûter une ancienne cuvée. C'est pas forcément toujours le dada d'Adrien. Il n'a pas toujours la moustache qui frétille. Mais ça permet aussi de parler un peu plus parfois de terroir, de lieu dit, de lieu, de sol. Géologie en arrivant, Adrien m'a parlé de ce Steinecker. Tu peux nous en parler?
Oui, alors le Steinecker, en fait, il est sur la commune de Trenheim. Il est vraiment sur la crête de la colline.
C'est un grand cru?
Non, c'est pas un grand cru du tout. Non, on le saurait sinon. Mais il est en projet d'appellation premier cru. Donc ça, c'est pareil, ça traîne aussi un peu. On ne sait pas trop où ça en est. Il y a principalement sur ce terroir-là qui fait 1 km de large sur 100 mètres de long, principalement du Riesling et du Gewürztraminer. Ça va être toujours des vins. On va dire que c'est un terroir qui est toujours très tardif par rapport aux autres, du fait de son exposition et de sa hauteur. On est sur un sol argilo-marneux avec de la marne irisée du Kuiper. Enfin, cette caractéristique va donner plutôt des vins généralement assez opulents, assez gras, assez expressifs. Mais là, du fait de l'exposition et du fait qu'il soit vraiment en crête de colline, il va exprimer un Riesling dans ce cas-là vraiment tout en finesse. Il ne va pas y avoir de côté pétrolé, il va toujours y avoir un côté assez floral, mentholé, un peu bourgeon de résineux, hop, on va dire résineux, on va dire résineux, voilà. Et c'est vrai que moi c'est un de mes vins du domaine, un de mes vins préférés, parce que c'est un vin qui va rester toujours élégant, ça va bien se marier avec des poissons frais, pas qu'avec de la choucroute, il va rester sec aussi. Parce que des fois, on a des fois affaire à des Riesling, quand on commande un Riesling au restaurant, malheureusement, un peu mi-figue, mi-raisin, et un peu trop sucré. Là, ça va rester sec, ça va rester droit, ça va être une acidité qui est pas forcément tout en... qui va pas avoir une attaque brutale, mais qui va rester quand même franche, qui va accompagner le vin en milieu de bouche, qu'on va ressentir doucement à la fin. On va dire, ah oui, c'est vrai qu'il est quand même vif. Mais à l'attaque, il n'est pas forcément très franc. Agressif. Ouais, agressif, voilà plutôt.
Dégustons-le, ce petit riz.
Millésime 95, j'ai demandé à mon papa. Et il m'a dit, millésime 95, normalement, c'est bien. Voilà. Si jamais. Voilà.
1995, c'était quoi? C'était l'élection, la première année, élection de Jacques Chirac. Donc, Jaco, si tu veux bien. En plus, une chose est sûre, il aimait bien boire et manger ça.
C'est la bière au vin, d'ailleurs.
Ouais. Mais notre président actuel préfère le vin à la bière. Bon, c'est, je sais, au moins on va garder ça.
Arrêtons d'emmerder les Français.
On le sait maintenant que Adrien n'est pas très 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 fan des vins un peu souvent. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans son regard. J'ai l'impression qu'il a plutôt tendance à apprécier. On va peut-être réussir à le faire apprécier.
C'est toujours pas mes vins préférés, effectivement. Néanmoins, là, je trouve qu'il garde énormément de fraîcheur, surtout à l'attaque. Justement, oui. Il y a quelque chose de très vif et très frais qui me plaît beaucoup. Avec cette finale, quand même, on sent sur l'évolution qui est présente. Donc, je trouve qu'il y a un équilibre là qui est sympa et qui le rend agréable, avec une grosse longueur en bouche aussi. Enfin, ça reste très longtemps, quoi.
Moi, j'aimerais peut-être compléter. C'est vrai qu'au niveau de la bouche, c'est vraiment pas mal. Ça reste frais, sans être agressif. Mm-hmm. Au niveau des arômes, je trouve que c'est un peu dommage. On perd un peu le côté floral. Il y a tout de suite un côté un peu pain de mie, comme ça, qui prédomine. Mm-hmm. Voilà. Je trouve que sur d'autres millésimes un peu plus anciens, c'est vrai qu'on avait encore une aromatique. Là, je trouve qu'on l'a un peu perdu. Alors, je ne sais pas si c'est une phase ou pas. Mm-hmm. Mais toujours est-il que c'est vrai que la structure reste là en bouche. Et on va dire... c'est le plus important, mais au niveau de l'aromatique, je sais pas, c'est pas forcément, je suis pas conquis, quoi, moi. Ah.
Toi, ça t'arrive d'ouvrir des vieilles bouteilles, et si oui, tu le fais uniquement dans un cadre pour vérifier comment ça évolue, ou tu te fais plaisir de temps en temps avec certaines vieilles bouteilles comme ça?
Bah effectivement, en famille, quand on a des anniversaires, Noël, tout ça, on en profite pour s'ouvrir, pour découvrir. C'est vrai que c'est aussi important. À un moment donné, le fruit de notre... Bon, là, c'est pas de notre travail à nous, de toute façon, 95, mais c'est aussi important des fois d'ouvrir des vieilles bouteilles pour se dire que quand même, le vin, et le vin d'Alsace, bien sûr, et notre vin, en fait, il se garde, il a des qualités, ça dépend des millésimes, mais en tout cas, il se garde bien. Et ça, c'est ça aussi qui nous motive aussi, et puis quand il y a un petit snob qui vient et qui nous dit « Oh, mais de toute façon, le vin d'Alsace, ça se garde pas », bon, on lui sourit et puis on lui explique gentiment, mais ça, des fois, c'est un peu lourd, quoi. Parce que c'est souvent des gens qui connaissent pas grand-chose, parce que la personne qui a beaucoup de bouteilles, on va dire, en dégustation, sait très bien que c'est le vigneron qui va faire le vin. C'est sa manière de cultiver la vigne. Parce que même sur le terroir le plus exceptionnel, on peut toujours faire pisser la vigne, on peut avoir des gros rendements... Voilà, ça dépend de sa méthode culturelle, ça dépend de comment on taille la vigne, ça dépend à quel moment on récolte aussi, et comment on le vinifie aussi. Il n'y a aucune fatalité chez aucun vigneron. Je pense que tout le monde, dans un climat raisonnable, bien sûr, je pense que si on va dans le nord de la Suède, ça sera pas, déjà la vigne poussera très mal, je pense, et ça gèlera souvent. Mais je pense, je parle maintenant juste dans le cadre, on va dire, de la France ou de la grande France napoléonienne, voilà, pour élargir. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi, à faire des grands vins, justement, des vins qui se gardent.
Notre voyage à Trenheim prend fin. petit à petit. C'est toujours.
Qu'est-ce que tu en penses? Tu nous as pas dit ça.
Oui, c'est
vrai. Ah oui, est-ce que j'ai donné mon avis? Non, je n'ai pas donné mon avis. Moi, je trouve que en termes de nez, il est relativement fruité, relativement présent. Mais surtout, je trouve qu'on galvaude un peu le fait de dire que les vins d'Alsace ne vieillissent pas. Moi, j'aime beaucoup les vins un peu vieillis, un peu mélisémés. Le côté un peu brioché, un peu beurré, moi, me plaît beaucoup. Comment tu as vécu cette expérience du raisin et des papilles ?
Eh ben, c'était un moment très agréable, merci à vous deux. Et écoute, ça s'est passé comme une dégustation avec un petit micro autour, quoi, mais c'est tout. Hein, c'est pas...
il est petit, vraiment
oui,
petit.
Non, mais c'est ça, il est très discret. J'étais un peu étonné. Moi, je m'attendais à tout un attirail, mais bon. Non, c'était très sympa. Je pense qu'on arrive à mieux parler qu'avec une caméra, ça on l'avait déjà dit. Ouais, franchement, vous êtes sympa, hein, donc. Voilà.
C'est gentil. Pour toi, Adrien, tes brunchs, je vois que ça marche bien, tes soirées, ça marche bien. Moi, je suis content que tu sois heureux. Franchement, je suis heureux que tu sois heureux.
Merci beaucoup, effectivement. Je suis plutôt content de la manière dont c'est en train de tourner, avec surtout les brunchs, effectivement, qui marchent très très bien, où on a un petit peu de pétillant naturel, qui est un peu plus digeste pour le dimanche midi, on va dire. Donc, il faut que je trouve... voilà, exactement. Il faut que je trouve une place pour brancher une tireuse, et c'est la seule chose qui manque pour l'instant.
Je vous rappelle que le 24-25 octobre 2020, vous avez le salon contre-courant au domaine Brandt. Donc, c'est l'épisode. Alors là, il faut que je. Attends, je m'en souviendrai plus. L'épisode 13 qu'on a fait ensemble, où vous avez une trentaine de vignerons de la France entière. Ça va vraiment être sympa. Donc, gentil petit Covid, si tu voulais bien nous laisser un petit peu tranquille, ce serait bien. Comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. Merci à toi Nathan, merci Adrien, et comme on dit par chez nous, skilt.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool, buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.